Cube Radio.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, peut-être que vous avez écouté la messe du dimanche hier soir à l'émission Tout le monde en parle à Radio-Canada, une émission qui est maintenant faite en direct. On parlait du mot dont on n'a pas le droit de parler. Donc, tout le monde ne parle pas du mot « haine ». Tout le monde parle du mot qu'on n'a pas le droit de parler de. C'est vraiment, c'est rendu complètement absurde, cette situation-là. J'imagine, mettons, un enfant qui écoute ça et puis qui se dit, mais maman, papa, vous passez des heures et des heures à parler d'un mot, mais c'est quoi ce mot-là? Ah ben, on n'a pas le droit de te le dire, le mot. C'est le mot dont on n'a pas le droit de prononcer le nom. Le Voldemort des mots. En tout cas, il y avait donc 4 invités là, et ben vous lirez ma chronique de ce matin dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, où je me questionne sur la pertinence d'inviter 4 invités qui pensent exactement du même bord. Surtout que ce matin, dans le Journal de Montréal aussi, Maca Koto écrit un texte merveilleux sur le même sujet. J'aurais aimé ça voir Maca Koto, entendre Maca Koto hier débattre de ce mot en haine. Est-ce qu'on a le droit de l'utiliser, oui ou non, dans quel contexte? Et l'historique de ce mot-là, ça aurait été drôlement intéressant. À la place, on a eu le rappeur Webster qui nous a dit, vous savez que la professeure de l'Université d'Ottawa, Verushka Lieutenant-Duval, quand, dès qu'elle a su qu'il y avait un étudiant, une étudiante qui avait été blessée par son emploi du mot qui commence par un N, elle a dit à ses étudiants, ben écoutez, on va pouvoir en débattre à la prochaine classe, là, au prochain cours, on va pouvoir en débattre. Ben Webster, lui, hier, à Tout le monde en parle, était choqué de ça. Et il a dit, et je cite, « Il n'y a pas de débat à avoir sur l'utilisation de ce mot-là. » Fin de la citation. Il n'y a pas de débat à avoir. C'est fini, là, c'est comme c'est réglé. Monsieur Webster, il s'est prononcé, lui. Personne n'a le droit, on n'a pas à débattre. Ben, je m'excuse, on est dans une société démocratique. On a le droit de discuter. C'est même ça qui fait la santé d'une démocratie, la santé de la vie intellectuelle. Toi, t'as ton opinion, moi j'ai la mienne, le voisin en a une autre, on va s'asseoir et on va se parler. Non, Webster, lui, il dit, on n'a pas le droit, il n'y a pas de débat à avoir sur l'utilisation de ce mot-là. Je trouve ça très triste, cette fin de non-recevoir. Et très honnêtement, quand j'ai entendu cette déclaration de Webster hier à la télévision de Radio-Canada, j'ai poussé un grand... Ben voyons donc.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Il y a quelques années, le film Borat, qui avait fait un énorme succès, ben 14 ans plus tard, c'est la suite. Et le titre du film maintenant, c'est Borat, le film d'après l'incroyable subterfuge au régime américain pour mettre en lumière la nation du Kazakhstan, jadis si glorieuse. Ah, oh, et c'est toujours aussi drôle. On va en parler avec notre chroniqueur du lundi, l'animateur et chroniqueur Jean-Michel Dufault. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Sophie, bon lundi.
Écoute, Borat, Sacha Baron Cohen, à chaque fois qu'il fait des films, ça fait jaser. Et dans ce cas-ci, ça fait jaser, entre autres, parce qu'il y a une scène qui met en vedette de façon très, très gênante Rudy Giuliani, donc personnage bien connu aux États-Unis. Explique-nous un petit peu le contexte de ce scandale-là.
Ben c'est ça, il a... la co-vedette de ce faux documentaire, on pourrait dire, ce documentaire... un peu scripté, se déguise en jeune journaliste qui va faire une entrevue avec Giuliani. On sait que Giuliani a toujours aimé les jeunes femmes, c'est assez connu. Et donc, elle fait cette entrevue de... C'est très naïf. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant que lui ne voit pas que c'est louche.
En effet.
Quand il la regarde, il est correct. Il est très bon oncle en la rassurant. Ça va être correct parce qu'elle fait « Oh, je suis nerveuse. Vous êtes mon idole. Oh, que c'est énervant. » Tu sais. Et à la fin de l'entrevue, c'est assez malaisant parce qu'elle dit « Ben, on va aller prendre un... Est-ce qu'on pourrait prendre un verre dans ma chambre, dans la chambre? » Donc, c'est déjà tendancieux. Et donc, il se retrouve dans la chambre, elle l'aide pour enlever son micro, ce qui arrive souvent après une entrevue. Et là, clairement, il met sa main, lui, Giuliani, met sa main dans son propre pantalon, mais c'est très, très, très tendancieux. Et moi, l'impression que j'ai, c'est quand même que c'était tellement majeur ce qui était en train de se passer que, dans, en tout cas, dans le documentaire, Borat rentre à ce moment-là. La production, dans le fond, sauve le moment, mais est-ce que c'est ça vraiment qui est arrivé? Je ne sais pas, parce qu'évidemment, ce qu'on voit, c'est ce qui est monté, mais je ne sais pas toi, ton impression. Est-ce que tu as l'impression que c'est vraiment ça qui est arrivé? C'est-à-dire que quand ça devenait touché, trop touché, disons, on a sauvé les meubles en disant « OK, on arrête là » ou est-ce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas vus? Je ne sais pas. J'essaie d'analyser la scène en la regardant, parce que j'ai regardé vraiment le film au complet ce samedi sur Prime, et j'ai l'impression que se sont dit « Ben, on va quand même... » On l'a eu jusqu'à ce moment-là, c'est tendancieux, ça montre quel homme il est, mais ça le met pas complètement dans une scène, mettons, trop malaisante. Enfin, c'est un peu l'indice.
Moi, je pense que si Borat était, si Sacha Baron Cohen n'était pas intervenu et qu'ils avaient donc montré ça, je pense qu'ils se seraient fait poursuivre par Rudy Giuliani. Alors que là, le fait que Sacha Baron Cohen intervient juste à ce moment-là, c'est juste suffisant pour dire, oh, regardez, c'est un gars qui s'apprête manifestement à se masturber ou quelque chose comme ça, à se donner du plaisir. Mais il n'y a pas, ça fait tout un scandale, cette scène-là aux États-Unis. Je pense que ça devrait faire un scandale juste pour le manque de jugement de Rudy Giuliani, mais il n'a pas agressé la jeune femme, il n'a pas fait quoi quelques gestes que ce soit envers elle sans son consentement. Et tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y a une jeune fille qui t'invite à passer à la chambre à coucher. Pourquoi tu t'essayerais pas? Le pire qui peut arriver, c'est qu'elle va dire non, je suis pas intéressée. Tu sais, il l'a pas agressé. Mais ce qui est incompréhensible, c'est comment se fait-il que cet homme-là, qui est quand même rompu aux affaires politiques et aux affaires de mœurs aux États-Unis, qui ait pas pensé qu'il y avait des caméras partout dans la chambre à coucher ou qu'il a pas pensé deux secondes. C'est vraiment ce qui me frappe, c'est le manque de jugement effarant de Rudy Giuliani.
Oui, mais tu as soulevé un autre bon point. Deux choses, tu as raison, parce qu'en plus, il faut rappeler que pendant l'entrevue, elle flirte vraiment ouvertement avec lui. Elle met sa main, la jeune reporter, sur les genoux de Giuliani plusieurs fois. Oui. Elle flirte de façon exagérée. Donc là, c'est sûr que lui, il se dit, j'ai peut-être un ticket, comme tu dis, mais le truc qui m'étonne aussi de ce film, je ne comprends pas, et ça, je veux faire des recherches, mais au niveau des cessations de droits,
on
appelle les fameux releases.
Oui.
Comment ça se fait? Et pas juste Giuliani, mais comment ça se fait que
les autres
se retrouvent là-dedans? Ils ont signé la décharge avant, comment? Et j'imagine que c'est ça, parce que je suis certain qu'ils sont bétonnés. Un film comme ça ne peut pas être présenté sans les signatures c'est dans les droits aux images. C'est impossible. Parce que
c'est impossible.
Si les poursuites n'arrêteraient pas. Mais de tout le monde dans le film, et moi, ce qui me fascine, c'est le nombre de personnes dans le film qui se retrouvent le visage non brouillé, mais dans des situations épouvantables. Et je me dis, ils sont quand même habiles parce qu'ils ont dû faire signer au début en échange de peut-être quelques billets verts. Et comme tu dis, pour Giuliani, c'est quand même spectaculaire là, de tomber dans la trappe. Parce que c'est vrai quand même qu'il faut quand même dire que pour l'entrevue, ça a l'air assez professionnel. C'est-à-dire qu'on voit qu'un peu comme à la 60 minutes, il y a des caméras champ contre champ. C'est dans un cadre qui a l'air professionnel. Donc, tu peux comprendre que peut-être qu'il est tombé dans le panneau pour ça. Mais quand il a vu cette jeune fille-là, il a dû se dire, attendez, là, je suis en train de me faire niaiser, là, comme on dit. Mais le manque de jugement d'un vieux monsieur comme ça, Giuliani, t'es un peu spécial. C'est peut-être pas si étonnant que ça. Quand on voit, par exemple, son amour aveugle pour Donald et tout ça, là.
Oui, oui, Donald Trump.
C'est sa grande force. Mais c'est un divertissement. Moi, j'aime beaucoup Borat, je suis fan. C'est assez quand même intéressant qu'on analyse tout le truc. C'est-à-dire que Baron Cohen est un juif britannique, d'origine juive britannique, veut dénoncer le racisme, veut dénoncer l'antisémitisme, avec raison, sauf qu'il est aussi un peu dans les clichés racistes par rapport au Kazakhstan, et il est très critiqué pour ça, et avec raison. C'est-à-dire qu'il veut dénoncer le racisme, mais en faisant ça, il est raciste, surtout envers le Kazakhstan.
Mais aussi envers les Américains. C'est-à-dire que sûr que c'est facile. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est facile de prendre deux, trois hillbillies américains suprémacistes blancs. Mais, tu sais, je veux dire, dans n'importe quelle société, tu peux aller trouver des gens qui sont des crétins finis. Ça veut pas dire que, tu sais, quand on dit il faut pas faire d'amalgame, ça veut pas dire que ça représente l'ensemble des Américains non plus. Mais c'est important de parler du fait qu'il est juif, Sacha Baron Cohen, parce que, à un moment donné, il y a une scène qui est hallucinante où son personnage rentre dans une pâtisserie et dit à la dame qui vend des gâteaux, est-ce que je peux faire inscrire un message sur le gâteau, tu sais, habituellement c'est joyeux anniversaire ou bonne retraite, et là il fait inscrire les juifs ne nous remplaceront pas, Jews will not replace us, et la dame elle demande juste ben comment vous écrivez ça, les mots et tout ça, mais elle a aucun problème à faire un gâteau avec un message raciste, et tu te dis mais c'est pas possible que cette femme là elle ait accepté que ces images là soient diffusées. C'est comme c'est hallucinant.
Oui, puis comme tu dis, mais ils ont signé les décharges, mais je suis fasciné. Mais une chose quand même qu'il faut donner à Borat, c'est le sang-froid qu'il a. C'est vraiment, il y a des scènes qui sont vraiment malaisantes. Là. Pensons au bal, là, par exemple, où il amène sa fille qui elle,
oui, explique. Danse,
ça supposait. Oui. Ben, en tout cas, c'est un genre de bal haute société du sud des
États-Unis. Un bal de débutante, oui.
Vous êtes des bal de débutante, exactement. Donc, on sent la droite républicaine, on sent les vieilles valeurs, on sent la richesse du sud et elle commence à faire donc cette danse déplacée. Elle est dans le moment de son moi, ça déborde et c'est vraiment vraiment malaisant. Mais le fait que les deux comédiens fassent ça, comme on dit, très stoïque, c'est hallucinant. Il a un courage, il a
quand peur
même
de rien.
Très, très fort pour ça. Ça. Il a peur de rien. Il a vraiment une force incroyable de se mettre dans des situations où peu de gens se mettraient, et pour ça, c'est divertissant. Donc, comme je dis, on peut analyser les pelures d'oignons, les messages et tout ça, mais ça reste divertissant, et oui, mais il grossit les traits, des fois, il y a un peu de mauvaise foi dans sa façon de mettre la lumière sur certains trucs, mais on sait, par exemple, que dans certains alt-right aux États-Unis, oui, il y a un antisémitisme assez sérieux, et je pense qu'il voulait montrer ça aussi, mais c'est assez divertissant, quand même. J'ai regardé ça, des moments, j'en revenais pas, je me dis, je peux pas croire, c'est quelque chose qui fait réagir, parce qu'il y a vraiment des moments malaisants. Là.
Absolument. Et moi, ce qui m'a fasciné, c'est que, bon, on est habitué, Sacha Baron Cohen est devenu vraiment une méga star avec le premier film Borat, vraiment, il est devenu connu à travers le monde. Et là, il partage l'écran dans ce faux documentaire avec une jeune fille qui joue le rôle de sa fille, Maria Bakalova, qui m'a jeté à terre. Alors, dès que j'ai eu fini de regarder le film, je suis allée voir c'est qui cette fille-là. Et c'est une jeune comédienne bulgare. Écoute, elle pète l'écran, puis comme tu le dis, elle est aussi folle que Sacha Baron Cohen dans son délire, parce qu'il y a plein de scènes où elle doit improviser, hein, vu que c'est un faux documentaire, il la place dans des situations où elle doit interagir avec des gens, donc ça prend un sens de la répartie absolument hallucinant. Et écoute, il y a un moment donné, elle est dans une auto avec une femme qui est supposée prendre soin d'elle, puis elle dit à quel point elle aime son père, elle dit my father is the greatest man in the whole flat earth, mon père est la personne la plus formidable dans toute la terre plate. Mais tu sais, elle dit ça, moi je serais incapable de dire ça sans partir à rire, et elle le dit, mais vraiment avec tout le sérieux. Écoute, c'est une découverte, cette femme-là.
Oui, tu as raison, elle est talentueuse, parce qu'elle joue vraiment, c'est comme deux filles, ou c'est au début du film, avant son, comme on dit aux États-Unis, son makeover. Elle est vraiment différente, même dans sa façon d'être, physique, de parler. Elle est comme captive de son père, tout ça. Il devient, après ça, on l'arrange, on l'américanise, et elle devient une autre fille. On oublie qu'elle est la fille qu'elle était au début du film. Donc, elle est formidable. Ils font une équipe absolument du tonnerre. Je suis d'accord. Ça, c'est une révélation. Mais ça reste, en tout cas, divertissant, différent. Il y a un univers à lui. Il y a des forces, quand même, ce gars-là. Tu sais, même dans ses émissions de télé, quand il avait commencé en Angleterre, il y avait Ali G, là, qui était un jeune rappeur, qui a fait des très bons trucs aussi. Il y a plusieurs personnages, mais c'est vrai que c'est Borat qui l'a vraiment fait connaître, passé à un autre niveau. Mais moi, j'ai eu du plaisir encore. Par moments, un plaisir coupable, par moments, des gros moments de malaise où je me disais quel courage qu'il a. Et aussi de mettre la lumière sur les États-Unis, un pays fascinant, puis de montrer le sud et tout ça, ben tu vois quand même, tu entends des trucs, puis tu fais, ben voyons donc ça.
Ouais,
c'est
ouais.
assez hallucinant de ce qu'ils montrent. Donc, ils tirent un peu partout aussi. Ça. Il y a quand même ça qu'il faut lui donner. Ils tirent partout, à gauche, à droite, et peu sont épargnés.
Voyons, Jean-Michel, on a un tout petit peu de difficulté à t'entendre. Il y a un petit peu de friture sur la ligne, fait que je ne sais pas si tu peux peut-être te déplacer pendant qu'on se parle. Écoute, c'est en effet fascinant sur ce que ça révèle sur les États-Unis, parce qu'à un moment donné, donc le personnage de Borat s'en va vivre quelques jours chez vraiment des hommes de Cro-Magnon, là, vraiment des gens qui ont à peu près un quotient intellectuel de 22, à peine au-dessus du géranium, et à un moment donné, il commence à leur parler des démocrates. Il dit qu'est-ce qui est pire, la pandémie, le coronavirus ou les démocrates? Puis là, les deux sont là et disent ah ben non, les démocrates, c'est pire que le virus. Écoute, il y a vraiment plein de scènes hilarantes. Donc, le documentaire Borat, vraiment, qui est à voir si vous voulez voir un petit peu les travers de la société américaine. Écoute, justement, parlant des travers de la société américaine, on est à un petit peu plus d'une semaine des élections. Et écoute, Donald Trump continue à faire parler de lui. As-tu vu cette entrevue hallucinante à 60 Minutes avec Leslie Stahl, où au bout d'un moment, il est comme juste tanné, il se lève puis dit ben, l'entrevue est terminée, parce qu'il reproche à Leslie Stahl de lui poser des questions difficiles qu'on ne pose pas à Joe Biden. Il a vraiment l'air d'un enfant dans une cour d'école qui dit ah, pourquoi lui a plus de bonbons que moi?
C'est incroyable ce manque. Premièrement, de savoir vivre. T'es le président, t'es élu, tu réponds aux questions, même si elles sont dures. Il est de mauvaise foi, il est irascible, il est colérique, il est hargneux, dérangé, et comme tu dis, il ne finit même pas l'entrevue. Il ne fait que se plaindre des questions. Il dit, comme tu dis, que Biden, on lui donne en anglais des softball questions. Des questions comme la balle lancée, là, comme.
Des questions faciles, ouais, c'est ça.
Ouais, alors que lui, il a les questions difficiles. Ça me fait halluciner, quand même, qu'à moins de 10 jours des élections, ça soit encore si serré, quand même. Je veux dire, je sais, certains vont dire, c'est facile de, mais quand même, quand on regarde tout ça, quand on regarde comment il n'est pas président, il n'a pas l'air d'un président. Ça me fait halluciner. J'ai regardé les deux entrevues. Puis le pire, c'est que c'est vrai que je suis un peu déçu du ticket démocrate. Je sais qu'il voulait aller au centre parce qu'il voulait justement rallier le plus les gens du centre aux États-Unis. Donc, ils ont pris Biden. Mais c'est vrai que Biden, j'aime l'homme, j'aime le parcours, mais je trouve pas qu'il est incroyable. Je trouve pas que dans les débats, il a donné le knock-out alors qu'il aurait pu. Il n'a jamais vraiment donné le knock-out alors qu'il me semble qu'il aurait pu juste l'attaquer sur son dossier, de la façon qu'il a géré la pandémie. Il y a tellement de choses là au niveau du déficit. Là. Le déficit américain, présentement, c'est dramatique. Et ça, il parle pas de ça. Trump ne parle qu'il a baissé les taxes et que c'est bien, mais non, il parle pas du déficit. Le déficit, il est en train d'exploser. Il y a tellement de choses sur lesquelles il aurait pu se faire knock-outer. Comme je dis, il le fait pas. Il a 77 ans, il commence à être fatigué un peu. Et dans les débats, en tout cas, des gens comme Elizabeth Warren ou même Bernie Sanders auraient été le meilleur. Mais évidemment, ça fait peur à tous ces gens qui ont peur de l'extrême gauche. Et ça me fait tellement rire parce qu'ils aussi peuvent tellement facilement répondre. Quand Trump dit vous êtes des socialistes, des communistes, c'est tellement n'importe quoi. Quand Biden dit qu'il va seulement augmenter l'impôt des gens qui font plus de 400 000 US par année et que les gens qui font moins que 400 000 $ US ne seront pas augmentés d'un sou, et Trump ne fait que mentir, qu'il ne fait qu'attaquer en mentant. Et je suis un peu déçu de la réplique. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, je pense qu'on est encore serré et que rien n'est gagné et que c'est pas si certain que ça que Trump va perdre. Et là, justement, le truc, ils ont été habiles. Là-dessus, j'ai plus le courage de Biden, qui s'est clairement opposé aux méthodes traditionnelles de carburant, en disant que l'industrie du pétrole, ça devait changer, que ça allait être remplacé. Mais il y a beaucoup d'États aux États-Unis où on est encore très en amour avec le pétrole. C'est beaucoup
d'emplois. Oui, ça passera pas.
Le Sud et tout ça. Et c'est pas vrai que ça va passer dans des États qui étaient peut-être en train de basculer. Ça va pas passer si facilement. Mais au moins là-dessus, il a eu le courage de, parce que tu sais, la question du fracking aussi, oui, non. Ils patinent un peu. Ils ont tellement peur de faire peur à une certaine droite américaine, des gens qui sont centristes, que des fois, ils manquent un peu de courage dans leurs opinions. Enfin, regarde, comme bien des gens, là, comme la planète va regarder, on espère que ça va changer.
Oui, puis une dernière chose en terminant, Jean-Michel, il y a eu cette déclaration en fin de semaine complètement délirante de Donald Trump qui a dit, c'était dans un de ses rassemblements, là, c'était pas en entrevue, c'était dans un rassemblement, il dit « c'est hors de question qu'on ait un président socialiste et surtout pas une femme ». C'est comme, c'était pire que ce soit une femme. Et ce gars-là est raciste, sexiste, tous les mots en iste, là, tu peux vraiment lui, les mots en iste et les mots en ob, tu peux vraiment l'affubler de ça. Écoute, merci beaucoup, Jean-Michel, puis à la prochaine chicane, on se reparle lundi prochain.
Ah ben avec plaisir. Salut, bonne journée, bon lundi. Bye bye.
Merci, à lundi prochain.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
En cette période difficile, cette période trouble, vous savez pas trop comment vous positionner par rapport au mouvement MeToo, par rapport au djihad, par rapport à la pandémie. Mais n'ayez crainte, maintenant vous avez une source de réflexion pour éclairer vos pensées. C'est Réflexion mentale, deuxième journal d'intimé, publié aux éditions Le Méac. Et c'est un livre écrit par l'auteur, humoriste et comédien Claude Meunier. Bonjour Claude.
Bonjour Sophie. Une belle présentation, ça.
Moi, j'aime ça te faire des belles présentations quand on se parle tous les deux. Écoute, pourquoi est-ce que notre personnage préféré, notre personnage adoré de Timé de La Petite Vie, pourquoi tenait-il, Timé, à partager ses réflexions mentales avec l'ensemble de la population québécoise? Que dis-je? Avec la population mondiale.
Écoute, faudrait lui demander.
Ouais, hein?
Mais sincèrement, c'est venu tout seul. J'avais commencé à écrire, je savais pas comment, j'avais le goût d'écrire, j'avais écrit un premier texte avec Timé l'année passée, en pensant à lui, mais je savais pas trop quoi faire avec ça, puis ça dormait dans mon ordinateur, puis j'ai rencontré mon éditeur de chez Le Méac, Pierre Filion, par hasard, parce que j'avais soumis un texte, en tout cas une couple de 2 ans, puis il me revient avec ça, puis qu'est-ce que tu fais avec ça? Je dis, ah, je sais pas trop, mais il dit, ça fait 20 ans que t'as écrit le journal d'intimé, pourquoi t'essayes pas d'en faire un deuxième? Puis tu sais, ça s'était bien passé dans le temps. Fait que finalement, j'ai dit, ok, puis j'ai trouvé la forme d'entrevue, ça m'a éclairé complètement, puis là, je peux pas passer à côté des sujets actuels, c'était ça mon...
Puis oui.
J'ai décidé de parler de beaucoup de sujets d'actualité, des sujets chauds, des sujets controversés. Et c'est sûr que jusqu'à moi, tu sais, puis souvent je passe puis je tourne autour ou je m'amuse avec les sujets. Mais je me suis rendu compte que c'est très difficile de prendre ces sujets-là, qui sont tellement complexes que on peut en parler, mais on peut aussi voir tout le ridicule d'essayer de le régler ces sujets-là de façon rapide et comment dire, donc. De pas faire de nuances, faut faire beaucoup de nuances, puis Timé, ben il s'essaye. Puis en fait, c'est des pistes de réflexion à un moment donné, ça devient des pistes de réflexion. Et moi-même, ça m'a amené beaucoup à réfléchir
J'imagine. Sur le sujet. Mais c'est ça qui est amusant, parce que, par exemple, si je prends un personnage, mettons les différents personnages d'Yvon Deschamps, OK? Il disait des énormités, mais c'était pour nous aider à réfléchir sur ces sujets-là. Timé, il dit des énormités sur les femmes, sur le mouvement MeToo, sur les musulmans, les musulmans, ils les appellent les musulmans, sur les immigrants, mais en même temps, caché à travers les énormités, il y a des pistes de réflexion qui sont drôlement intéressantes. Ma question pour toi, Claude, c'est est-ce que tout le monde va être capable de lire entre les lignes où il n'y a pas des gens qui vont prendre ça au premier degré?
Très bonne question, et c'était la discussion que j'avais avec mon éditeur. Puis, il y a certains sujets, je vais t'avouer bien honnêtement, il y a un sujet qu'on a vraiment coupé dedans, parce que c'était tellement difficile d'en parler avec humour sans blesser, c'est le sujet de MeToo. Le sujet de MeToo, j'avais fait comme 2 pages dessus. Puis, à un moment donné, on disait, non, ils vont le prendre au premier degré. Non, on peut pas dire ça. Comme on peut pas dire le mot haine actuellement, il y a beaucoup de choses qu'on peut pas dire. sans lever une polémique terrible. Fait que le texte sur MeToo, c'est le seul qu'on a vraiment ramené. Mais j'ai fait lire mon livre à des... J'avais des petits groupes de lecteurs, puis... lectrice aussi, tout à fait lectrice.
Ouais, ouais.
Encore plus lectrice. Mais d'ailleurs, moi, le texte qui me faisait le plus peur, c'était le texte à la fin sur les femmes. Quand Timé se vante du concours, d'adorer le concours Miss Univers. Puis ça, les filles me sont venues en me disant, c'est un des plus drôles. Parce que vraiment, ça fait vraiment, c'est vraiment mettre au pilori ce genre de penseur-là. Parce que le gars qui est l'intervieweur dans le livre de Timé, il met toujours Timé au pied du mur. Il condamne toujours la position de Timé en quelque
Absolument.
Part. C'est comme on voit le second degré. C'est ça qui m'a aidé à pouvoir faire ça. Parce que sinon, effectivement, les gens n'ont pas vu second degré jamais.
Mais en même temps, tu vois, on vient d'en nommer quelques-uns. On a nommé MeToo, on a nommé les immigrants, on a nommé, bon, évidemment. Mais écoute, t'écris un texte sur les personnes transgenres. Et écoute, je me suis dit, aïe aïe, mais t'as peur de rien, parce que le lobby des personnes transgenres, il y a un certain lobby, en tout cas, de personnes transgenres, qui ne comprennent pas le second degré, qui n'acceptent pas de quelque façon que ce soit que, premièrement, toi, tu n'es pas une personne transgenre, donc t'as pas le droit d'en parler. Alors, qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là?
Oui, mais Sophie, j'ai une femme transgenre. Maman.
Oui, ben je le sais, t'es le créateur du premier personnage transgenre à la télévision québécoise, peut-être. Mais ces gens-là te répondraient que c'est une caricature, tu comprends? Parce que je veux juste dire, puis c'est très dangereux, évidemment, puis je veux pas jouer au jeu de te citer hors contexte. Alors, il faut qu'on explique aux gens que tout ça est un livre humoristique, que c'est un personnage qui est une caricature. Donc, il est reçu à une émission de télé ou une émission de radio, peu importe, réflexion mentale, et l'intervieweur dit à Timé, vous avez déjà dit à propos des transsexuels, si ma femme en était une, je lui emprunterais volontiers son jackstrap pour jouer aux poches. Moi, je trouve ça super drôle quand je lis ça. Mais je sais pas, quelqu'un qui est transgenre, ben oui, mais quelqu'un qui est transgenre, est-ce que c'est possible qu'elle t'appelle en disant, t'es complètement à côté de la traque, Claude?
Ben, tu sais quoi, Sophie, il va falloir qu'ils apprennent à trouver ça drôle, parce que sinon, ils vont être malheureux longtemps. Et je le dis ouvertement, et j'assume ce que je dis, mais tu sais, dans le temps de la petite vie, quand Jean-Loup est arrivé dans la petite vie, il y a eu des gens connus qui ont dit, qui ont dit à la radio, c'est épouvantable de rire d'un gay. Mais je riais pas d'un gay, je mettais un gay qui avait des couverts, qui avait des côtés ridicules, des côtés pas ridicules, mais risibles. Puis c'était pas parce qu'il était gay, c'était parce qu'il était maniéré, parce qu'il était hyper susceptible. Mais quand on inclut quelqu'un, en quelque part, c'est comme de l'aimer. Ben, enfin, je veux pas dire que j'aime
les gens. Tu fais partie de la gang, c'est ça.
Je fais partie de la gang. Et Timé, ce qui est drôle, c'est qu'il sort ça en toute naïveté. Et souvent, on va dire des choses aujourd'hui en toute naïveté, sans arrière-pensée, et c'est pris comme une attaque. Alors, c'est difficile de naviguer aujourd'hui avec tous les interdits, toutes les barrières, la radicalisation, comment les gens se braquent facilement. Et moi, je me suis dit, j'y vais, je navigue là-dessus, je m'amuse, et tout le monde connaît Timé. Tout le monde sait que Timé... Il est dans la... Fait que là, Timé, il est toujours un peu dans l'erreur. Il est toujours... Il est comme un aveugle là-dedans qui navigue dans des eaux troubles. Mais moi, je me suis bien amusé. Puis, quand j'ai relu mon livre, je me suis dit, my God, c'est tous des sujets qui nous amènent n'importe où. Tu sais, on va pas là, mais ce que je dis, il y a beaucoup de sujets là-dedans qui sont tellement difficiles. C'est difficile d'en parler comme faux, mais il faudrait qu'on soit capable de prendre un recul dans ces sujets-là, puis être capable d'avoir différentes opinions et d'être capable de rire un peu de tout ça aussi. Parce que c'est un monde de spécialité aujourd'hui. T'es tellement spécialisé, les sujets sont tellement pointus que c'est difficile d'en parler sans faire une erreur, sans mettre le pied à côté des fois.
Ouais, mais je trouve ça très intéressant ce que tu dis quand tu dis qu'à l'époque, des gens avaient dit il ne faut pas rire des gays et que toi, c'était pas que tu riais des gays, mais tu avais un personnage qui était gay et il était drôle. Mais tous les autres personnages de ta série étaient hétéros et tu riais d'eux. Tu comprends ce que je veux dire? Ben c'est que si t'avais tous des personnages hétéros qui étaient formidables, puis que t'avais le seul personnage qui est gay qui était risible, j'aurais compris la critique. Mais là, tous tes personnages étaient risibles. Ben oui, donc, la critique tient pas, mais c'est ça que c'est... Mais c'est parce qu'on vit dans un monde absurde, Claude. Ben et oui, aujourd'hui, tu pourrais pas faire ça. En tout cas, écoute, un autre
sujet... Une personne, Sophie, j'ai un âge, moi j'ai 69 ans, une personne de 70 ans, de 69 ans, de mon âge, qui voit arriver un transgenre chez lui, il connaît pas tout le vocabulaire, je parle pas de moi, là, mais je parle... Il peut avoir des gens plus âgés, même plus âgés que moi, qui vont avoir de la misère à comprendre ça. Ils vont avoir de la misère aussi à comprendre l'islam, à comprendre plein de choses, à comprendre les révolutions, à comprendre le machisme, qui vont dire, c'était pas macho, c'était comme ça. À tous les sujets, il y a une espèce de révolution qui se fait actuellement avec ce qui se passe aux États-Unis, avec le MeToo, puis c'est vraiment formidable. C'est sûr que ça brasse, mais Faut pas. C'est difficile de pas marcher sur des œufs, en tout cas, sur des bombes même. Et c'est ça que le livre souligne un peu, je pense. En tout cas, sans vouloir faire dire que mon livre est politique, ce que je pense pas du tout. Mais ça m'a amené, moi, beaucoup de réflexions sur ces sujets-là. Ça m'a amené à réfléchir beaucoup là-dessus. Et avoir toutes les difficultés du monde actuellement.
Ouais, mais je dirais que mais il est pas nécessairement politique, mais en tout cas il est certainement sociologique parce que je reviens à Me Too. Ton personnage de Timé dit à propos de sa femme, il dit quand elle insiste pour que mon corps d'Adonis se colle au sien, je lui demandais de prendre une heure de réflexion et de m'envoyer sa réponse par affidavit signée par deux témoins de sexe féminin si possible. C'est sûr que c'est une joke, c'est sûr que c'est une caricature, mais en même temps quand on a regardé des fois la situation Me Too, on se demande si c'est pas ça qu'on nous demande, c'est-à-dire que on a tellement poussé la notion du consentement tellement loin que en fait c'est une démonstration par l'absurde. Mais c'est ça le rôle d'un humoriste, de faire des démonstrations par l'absurde.
C'est en plein ça que j'ai voulu faire. C'est le bout que j'ai gardé parce que je trouvais que ça avait une résonance avec comment pousser à l'extrême beaucoup de mouvements comme ça, le mouvement MeToo pour aller là, tu sais. Poussé à l'extrême, tu sais, le consentement à tout moment. Mais c'est correct. C'est correct que, tu sais, on balance souvent de l'autre côté, hein, quand on révolutionne quelque chose. On va souvent bonder dans le mur en face, là, tu sais. C'est un peu ça que le livre fait aussi, tu sais. Il souligne aussi l'incompréhension. Le livre souligne l'incompréhension. Tu sais, Timé avec l'immigrant, tu sais, c'est compliqué, l'immigrant. C'est compliqué de comprendre comment on peut les accueillir. Tu sais, je regardais hier encore, il y a un reportage que j'ai vu sur les migrants, qu'en Europe, il y a pas les droits des migrants sont pas assez développés. C'est pas, qu'est-ce que tu fais avec ça? Comment tu fais ça? On est là, on dit oui, mais faut leur permettre de rentrer, mais comment tu fais ça? Tu sais, c'est compliqué. On a de la misère à comprendre les aboutissants étonnants de toute cette affaire-là. Mais les gens aiment ça des opinions simples, les opinions où tout est réglé. On aime ça régler les problèmes vite, mais on peut pas les régler vite et c'est complexe. Puis tu mets sa position sur les migrants, il se donne bonne conscience en disant je vais acheter des sous-vêtements qui sont faits par des gens que je fais vivre au Pakistan. Tu sais, il dit n'importe quoi, mais en tout cas, c'est comme ça que certains pensent. Hein.
Mais c'est ça, c'est que c'est important aussi de dire, puis j'aime beaucoup quand tu donnes l'exemple par rapport aux personnes transgenres, parfois on est démunis, c'est-à-dire qu'on n'a pas le vocabulaire, on n'a pas les mots justes pour parler de certaines situations, on connaît pas tous les tenants et les aboutissants, donc il y a beaucoup de gens qui disent des énormités, pas parce qu'ils sont vilains, pas parce qu'ils sont sexistes, pas parce que... Mais juste parce qu'ils sont maladroits, ils ont pas connaissance de tout le portrait.
Si ma femme était transgenre, j'emprunterais son jackstrap. Lui, il me disait par là que je l'aimerais quand même.
c'est
malhabile. Mais il dit pas je la mettrais dehors. Tu sais, il dit au contraire, autrement dit, je partagerais quand même ma vie avec. C'est à peu près ça, mais c'est malhabile, complètement malhabile. Mais ça dit ce que ça veut dire.
Ouais. Et en même temps, quand on écoute, quand on lit ton discours de Timé, par exemple, sur la pandémie, ben, je veux dire, j'en connais, là. Il y en a une couple, là, sur les médias sociaux qui tiennent des propos qui ressemblent un petit peu. Des fois, il y a beaucoup de gens qui cultivent leur Timé intérieur.
Tout à fait. Il y a des Timés partout. Et moi-même, j'ai un petit jardin Timé en moi. Tu comprends bien? On a tous un peu de Timé en nous, je pense, en quelque part.
Alors, écoute, tu l'as abordé un tout petit petit peu tout à l'heure, mais c'est sûr que je peux pas m'empêcher, Claude, de te poser la question par rapport justement au mot qui commence par un N qu'on n'a pas le droit de prononcer. Et je reviens toujours avec ce sketch que tu avais fait il y a plusieurs années avec... Bon, je sais même pas, est-ce qu'on peut le raconter encore, ce sketch-là? Est-ce que vous mangez du lion et tout? Est-ce qu'on peut-tu...
Ben oui, on peut le raconter, mais écoute, il faut le remettre dans son contexte à l'époque, tu sais. À l'époque, on disait le mot haine, puis c'était pas nécessairement péjoratif dans notre tête. Maintenant, on peut même plus le dire, c'est évident. Oui, c'est un sketch qui aujourd'hui, qui avait été un gros succès, un immense succès, faut le dire, que les Québécois avaient trouvé très bon. Ça avait été un peu le hit de ce bye-bye-là. Ça a été remis dans des best-of après ça. Je me rappelle très bien. Ils ont fait les meilleurs moments des bye-bye, puis ils étaient là. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est honte à moi d'abord et honte au Québec au complet? Peut-être.
Bonne question.
Je ne le referai plus jamais, c'est sûr. Je ne le referai plus. Écoute, Sophie, je ne pourrais plus faire ça aujourd'hui. Puis je ne le ferai pas. Je ne serais pas capable de le faire parce que ça a pris toute une autre signification. C'est devenu épouvantable. Mais tu sais, on disait N Black, je n'ose même pas le dire à la radio.
Mais oui, mais oui.
Ils avaient un numéro où ils parlaient, bon, en tout cas. Puis, tu sais, comment faire l'amour avec un ex sans se tiquer? Tu sais, il y en a, là. Tu sais, ça a été employé, ça faisait partie des. Ça n'avait pas la consonance. Nous autres, on est au Québec, hein. On n'est pas dans le sud des États-Unis. Puis, on ne voit pas ce que ça veut dire, le mot N ici, nécessairement. Alors qu'on le voit beaucoup aux États-Unis. Mais je ne veux pas faire d'excuses. De toute façon, je l'ai fait, ce sketch-là. À l'époque, ça se faisait. Ça se faisait, comme on appelait les gays un autre nom. On peut le dire de façon drôle dans ce temps-là. Mais on ne le dit plus aujourd'hui parce qu'on n'est plus capable de le dire. Parce que quand la signification d'un mot prend toute sa mesure ou change, puis qu'on voit à quel point ça offense des gens, on arrête. C'est tout. C'est pas compliqué. On arrête. That's it. On passe à un autre mot, puis on se rentre ça dans la tête. C'est tout. Pour moi, c'est pas plus compliqué que ça. Là, on ne peut pas regretter tout ce qu'on a dit et fait toute notre vie, à moins d'avoir fait un acte criminel. Là.
Ouais. Mais en même temps, dans le contexte de cette controverse qui vraiment secoue le Québec, c'est que ça a été dit dans un contexte académique. Donc, si par exemple quelqu'un faisait l'histoire de la télévision québécoise, ben est-ce que un professeur serait suspendu pour avoir montré cet extrait-là du Bye Bye de 1981 où on demande à un personnage africain est-ce que vous mangez de la dinde du lion, est-ce que vous mangez ça avec des atokas? Bon, je veux dire, est-ce que le professeur qui montrerait cet extrait-là se ferait trucider sur la place publique?
À Ottawa, oui, mais pas à Montréal. Probablement. Ça, je pense que là, ils ont eu leur leçon, j'espère. Ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là. C'est complètement ridicule, là. C'est pauvre enseignante. Je comprends qu'elle a fait une erreur, mais c'était pas une erreur méchante. C'était pas, encore une fois, c'était dans un contexte académique, en plus. Alors, écoutez, on va changer le mot. Je sais pas quoi dire avec ça.
Ouais.
Sinon que c'est épouvantable. C'est certain que, là, si on tourne dans le passé, hein, il y a des choses qui méritent peut-être plus d'être là. Il y a peut-être des personnages historiques comme des statues qui méritent plus d'être là parce que vraiment, elles évoquent seulement la dictature ou de l'abus, ou en tout cas, on comprend tout ce que je veux dire, mais on peut pas tout radier, on peut pas tout enlever, tu sais. T'sais, ça finira plus, là. Il n'y aura plus d'histoire. Il n'y aura plus d'histoire parce que les mentalités ont changé. Le sens des mots a changé aussi.
Absolument. Écoute, ça a été vraiment passionnant. Donc, j'encourage tout le monde à lire Les réflexions mentales de Timé. C'est publié aux éditions Le Méac. Claude Meunier, c'est toujours un plaisir de te parler.
Très agréable. Merci de m'avoir appelé.
Un petit tofu aux atokas, peut-être, aujourd'hui, pour le souper.
On dit pas non. OK.
Merci, Claude.
Sophie Durocher.
Entendez les dessous de sa dernière chronique.
Cube Radio.
Il y a d'abord eu le cas du restaurant Kitchen 73 qui a reçu la visite de l'Office québécois de la langue française. Le propriétaire du restaurant était très fâché. Et là, il y a une pâtisserie italienne dans Saint-Léonard qui a reçu aussi la visite de l'OQLF. Ces deux visites-là nous font penser que peut-être on est face à un deuxième Pastagate. Vous vous souvenez cette histoire d'un restaurant boulevard Saint-Laurent qui s'était fait dire qu'il fallait changer les mots en italien sur son menu. En tout cas, Steve Gallucci, qu'on connaît bien, qui est auteur dramatique, qui est auteur, entre autres, du grand succès Mambo Italiano, il est fâché contre le QLF. Bonjour, Steve Gallucci.
Bonjour. Je pense que je vais devoir changer le titre de Mambo Italiano. Je pense pas que ça va passer avec le QLF. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Sophie?
C'est vrai, hein? Peut-être que c'est deux mots qui devraient être traduits en français. Bon, alors, ce dont on parle ici, Steve, c'est évidemment deux commerces qui ont reçu la visite. Et sur votre page Facebook, vous avez été assez raide avec l'OQLF. Oui. Alors, je veux juste citer ce que vous avez écrit. Vous dites, il n'y a pas d'équivalent pour Granita et Espresso. C'est une boulangerie italienne, bande de porc retardée. Tu veux un autre Pastagate? On va t'en donner un. Putain. Fin de la citation. C'est un peu raide quand même, M. Gallucci.
Ben ça, c'est moi sur Facebook. C'est toujours, je suis toujours comme ça. Je suis raide avec tout le monde. Mais moi, je pense que en temps de pandémie, d'aller dans les petits commerces et de les harceler de cette façon-là, c'est inacceptable. C'est épouvantable. Je veux dire, dans une boulangerie italienne comme dans une boulangerie, je ne sais pas, grecque, portugaise, je ne sais pas trop quoi, c'est sûr qu'il va y avoir des mots qui sont pas français. Comment est-ce qu'on dit espresso en français? C'est expresso. Ça fait des années que je me bats contre tout le monde, contre mes amis, pour dire que c'est pas expresso, c'est espresso. Granita, c'est quoi le mot en français? Là, j'ai vu sur leur site, leur petit site internet, là, qui est bien chouette, là, qui est bien cute, payé avec nos taxes, avec nos impôts, que le mot granita en français, c'est granité.
Voilà.
Ça devrait être expresso long, quelque chose. J'ai aucun problème, moi, qu'on écrit expresso allongé. Ça va. Mais on sait, tout le monde sait c'est quoi une expresso, un latte, granita. Et on s'arrête où? Ça s'arrête où? Est-ce qu'il va falloir changer sfogliatelle, cannoli? Si on va dans un endroit grec, est-ce qu'il va falloir changer taramosala, tzatziki? C'est où, là? Ça finit où, cette histoire-là? Je comprends bien de vouloir garder le visage francophone de Montréal, ça je suis tout à fait d'accord. Mais quand on s'attaque à des petits commerces en pleine pandémie qui en arrachent, qui ne savent pas comment faire de l'argent, que ce soit un resto, une pâtisserie où tout est limité, ce n'est pas le temps pour ces niaiseries-là.
Pas le temps pour ces niaiseries-là. Steve, j'aimerais beaucoup qu'on puisse continuer l'entrevue. Malheureusement, le son est très mauvais. Est-ce que c'est possible pour vous, peut-être juste de bouger, de changer d'endroit, de vous mettre plus près de la fenêtre? Parce que c'est vraiment important ce que vous avez à dire, puis j'aimerais ça que nos auditeurs vraiment vous entendent bien. Alors, je comprends que ce que vous dites, Steve, en fait, c'est que même si vous en avez pas en tant que tel contre le fait que l'OQLF dise ou fasse ces choses-là, c'est la question du contexte, parce que en ce moment, tous les commerçants en arrachent, donc est-ce que c'est vraiment pertinent de faire ça tout de suite? Par contre, il y a des gens qui pourraient vous répondre, Monsieur Gallucci, dire, ben, c'est pas parce qu'il y a la pandémie que tout d'un coup, le fait de parler français à Montréal et au Québec devient moins important. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là?
Mais on parle français au Québec et à Montréal, j'ai absolument rien contre ça. Moi, ce qui m'agace dans cette histoire-là, c'est de vouloir changer des mots italiens dans une pâtisserie italienne. C'est ça le problème. Comme je vous ai dit avant, si on change, mettons, espresso, granita, il y a pas d'équivalent en français. Est-ce qu'il faut changer aussi sfogliatelle? Cannoli, c'est ça le problème. C'est une question de presque de s'approprier d'une autre culture. Alors, moi quand je rentre, on est dans une grande ville. Vous m'entendez bien, là?
Oui, un petit peu mieux.
On est dans une grande ville cosmopolite et c'est normal qu'on rentre dans des endroits qui sont des endroits ethniques maintenant et le nom des pâtisseries sont dans la langue de la culture. Et si on comprend pas, c'est juste de se faire expliquer c'est quoi. À la limite, on peut même dire, on peut plus dire prosciutto.
Oui, mais regardez, Steve, quand même. Oui, d'accord, je peux comprendre. Par contre, dans le cas du restaurant Kitchen 73, ben là, c'est sûr que le nom du restaurant est en anglais. Est-ce que vous voyez pas, là, quand même, la loi est claire au Québec, les dénominations sociales des commerces, ça doit être en français, ou le français doit être en tout cas prédominant. Est-ce que vous trouvez pas quand même un petit peu problématique? Je fais juste poser la question, hein, Kitchen 73, trouvez-vous que c'est problématique?
Ben, écoutez, moi, de qu'est-ce que j'ai lu sur Kitchen 73, c'est que ça avait été réglé parce qu'il y a la loi, on peut nommer, je sais pas c'est quoi la loi, mais c'est comme un peu comme Second Cup. C'est on a le droit de dire, mettons, Second Cup ou Kitchen 73. Ça avait été réglé avec l'Office de langue française. De qu'est-ce que j'ai lu? Mais moi, c'est... Et effectivement, si c'est pas réglé, bon, ben là, va falloir le changer. Mais de qu'est-ce que j'ai lu, ça a été réglé, Kitchen 73. Alors, moi, ce qui me concerne vraiment, c'est la pâtisserie italienne. C'est ça là qui m'a vraiment interpellé, qui m'a choqué.
Steve, on se rappelle de l'affaire du Pastagate, donc ce restaurant boulevard Saint-Laurent. Je m'en souviens bien parce que c'était moi qui avais sorti l'histoire dans le journal de Montréal. Et à cette époque-là, c'était vraiment ridicule parce que le restaurant s'était fait dire que sur son menu, il pouvait pas écrire des mots comme pasta, lasagna, qu'il fallait traduire tous ces mots-là en français. Oui. C'est quand même un drôle de hasard que, fois après fois, c'est toujours les restaurants italiens qui passent sous le marteau de l'Office québécois de la langue française.
Est-ce que c'est du profilage?
Ah, peut-être, hein? Un profilage racial face à la culture italienne. Non, mais au-delà de ça, je pense que c'est pour ça aussi que ça vous touche autant, parce que vous avez toujours défendu la fierté de la culture italienne. Mm-hmm. C'est un héritage dont vous êtes très fier, que vous célébrez dans vos pièces de théâtre. Donc, je pense que c'est peut-être ça aussi qui explique que vous avez été aussi émotif et si virulent sur Facebook.
Oui, c'est sûr, parce que quand ils sont entrés dans une pâtisserie d'une petite madame italienne pour lui dire que espresso, c'est pas français, faut changer, qu'il faut changer granita, je sais pas quoi d'autre, mais il y a pas d'équivalent en français. C'est-à-dire que oui, peut-être il y a un équivalent dans leur petit dictionnaire de l'EQLF. Ils ont dit que espresso, c'est expresso, ce qui est complètement faux. Granita, c'est granité, mais c'est pas. Tu enlèves la richesse de rentrer dans une pâtisserie italienne, comme si j'allais dans une pâtisserie portugaise et je voulais les petites tartelettes de Monsieur Arruda, du docteur Arruda. Il y a un nom pour cette pâtisserie-là. Alors moi, je suis pas contre le fait de défendre le français. C'est le contraire. Moi, je vis en français et c'est très, très, très important que Montréal garde son visage francophone, mais il y a quand même des limites. Alors, comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'on va changer prosciutto? Est-ce que moi, il va falloir que je change le nom de ma pièce Mambo Italiano à quelque chose en français? Je veux dire, on s'arrête où, là? Je pense que c'est allé trop loin. Et en temps de pandémie, avec des commerces qui en arrachent, c'est pas le temps d'aller donner des contraventions.
Oui. Par contre, il y a quelque chose, un phénomène, j'ai remarqué, parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont parlé de ça, de ces deux cas-là sur Facebook, sur Twitter. Les commentaires qu'on peut lire en anglais sont assez violents puis assez agressifs. « We can speak English if we want. We can speak Italian if we want. Goddamn frogs. Goddamn OQLF. » Il y a vraiment un clivage anglophone-francophone qui est pas le fun à voir, Steve. Et je pensais que, justement, après le Pastagate, que la poussière était retombée. Mais là, à voir la violence des commentaires, je trouve ça très triste qu'on soit rendu à couteau tiré comme ça entre les deux communautés.
Mais je pense que c'est très émotif. Moi, je peux pas parler pour la communauté anglophone parce que je suis pas anglophone. Je me suis jamais considéré anglophone. Mais c'est sûr que c'est très émotif de voir. C'est parce que ça vient à la culture d'être un stool. Puis quand en italien, les Italiens, les stools, on n'aime pas ça. Alors, c'est quelqu'un qui est allé dans la petite pâtisserie de la petite madame qui a dit, ah, ben, regarde, ça, c'est écrit espresso, c'est quoi ça? Il faut l'écrire en français. Donc, t'appelles le QLF, puis là, le QLF te donne une contravention. Puis là, la madame, elle a dit, moi, je vais changer parce que je veux pas de contravention. Ça, c'est normal. Et donc, c'est sûr, ça devient émotif. Et tu sais que sur Twitter, sur Facebook, je le fais moi-même. Des fois, t'écris des affaires, puis tu fais, fuck, qu'est-ce que je de dire là, c'est assez grossier, c'est ridicule. Mais ça, le fait de, bon, il faut parler juste en anglais, il faut éliminer le QLF et tout ça, on peut dire que le QLF, c'est une gang de cons, ça, c'est parfait, mais pas les éliminer complètement. Mais moi, je pense que ça, c'est émotif, mais je suis pas d'accord qu'il faut parler juste en anglais ou juste en italien ou whatever, là, je veux dire, on est quand même dans une ville francophone, mais on est dans une ville cosmopolite, on est dans une grande ville, donc c'est sûr qu'on veut, que moi, en tout cas, je veux aller dans une pâtisserie italienne, portugaise, grecque, haïtienne, je sais pas trop quoi, et voir les vrais mots, je veux dire, les mots de la langue parlée des Italiens, des Portugais, de toutes les communautés ethniques qui se retrouvent à Montréal, parce que c'est ça qui fait la beauté de Montréal, d'une ville comme Montréal. Donc, si tout devient francisé, et là, tu regardes et tu t'en vas acheter une pâtisserie remplie de ricotta qui était avant, qui s'appelait cannoli, là, c'est je sais pas trop quoi. Un cannelé, je suis sûr que le QLF a une traduction. Alors, moi, c'est ça que j'ai peur de ça, parce que je pensais qu'avec Pastagate, on avait réglé ce problème-là. Et on l'a pas réglé. Il y a un petit zélé qui est allé voir la madame là, puis dit bon ben là vous autres là c'est vous changez espresso pour expresso. Et comme j'ai dit et comme j'ai dit à tous mes amis, ça fait des années que je me bats, c'est pas expresso, c'est espresso.
Mais non, j'ai le même combat. J'ai le même combat.
Donc voilà, on est sur la même page.
Oui. Alors, Steve, vous dites que c'est un combat ou enfin un sujet qui est très émotif. Je veux vous entendre sur un tout autre sujet qui est vraiment pas relié du tout à ça. Oui. Un sujet qui est très émotif, c'est la pièce de théâtre que vous avez écrite qui s'intitule « At the Beginning of Time » que vous pouvez pas présenter, évidemment, au Centaure en ce moment parce que il y a la pandémie et qu'on n'a pas le droit de monter sur scène, mais vous l'avez présenté de manière virtuelle, donc une lecture qu'on peut voir en ligne jusqu'au 28 octobre sur le site du Centaure. Et cette pièce de théâtre-là parle de quelque chose que vous connaissez bien. C'est un homme homosexuel de 60 ans dont le conjoint est atteint de la maladie d'Alzheimer. C'est votre histoire, Steve?
Oui, c'est mon histoire, Et donc, c'est un peu ça aussi, pour ça aussi que je suis très émotif, parce que quand je vois les CHSLD... On sait tous qu'est-ce qui s'est passé dans les CHSLD pendant la pandémie. Et quand j'ai vu que le gouvernement, la CAQ avait donné 5 millions à l'OQLF, il y a les CHSLD qui ont fait des miracles pendant la pandémie. Moi, mon mari a été atteint de la COVID. Il n'est pas décédé de la COVID, mais il a été atteint de la COVID. J'ai pas pu aller le voir pendant des mois et des mois et des mois. Il est décédé au mois d'août, mais de l'Alzheimer. Et quand je suis retourné dans cet endroit-là, c'était comme une zone de guerre. Je veux dire, ils ont tellement besoin d'aide. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et moi, je pense que c'est un peu pour ça que je me suis, quand j'ai vu tout ça avec le QLF, quand il y a des vrais problèmes, là, d'entrer dans les CHSLD et voir comment c'est difficile en ce moment pour eux, pour tout le monde, parce qu'on n'a pas le droit d'aller voir nos proches. Et oui, cette pièce-là parle de mon mari, de la maladie d'Alzheimer, d'être gay dans un CHSLD, c'est pas évident. C'est correct avec les infirmières et avec les médecins, tout ça, mais on veut pas, on se cache, on veut pas que les autres patients savent qu'on est gay. Donc, j'ai
redécouvert... Pourquoi, Steve? Pourquoi?
On a peur, je veux dire, parce que c'est quand même des personnes quand même assez âgées, les patients. Mm-hmm. Moi, je voulais pas que mon mari, qu'on sache que mon mari soit gay, que son colloque sache qu'il soit gay. J'avais peur parce que je me dis, si d'un coup, il est homophobe, on ne sait pas. On n'a pas de CHSLD gay comme tel. C'est pas mal straight. Alors, tout d'un coup, j'ai comme réalisé, mon Dieu, c'est comme un retour dans le placard. Je peux pas m'afficher, on veut pas s'afficher parce que Yves était devenu tellement, Yves était plus vieux que moi et parce qu'il était tellement avancé dans sa maladie, il avait l'air d'un monsieur de 80, peut-être 90 ans vers la fin. Tout le monde pensait que c'était mon père et moi je disais oui, c'est mon père. J'expliquais pas si c'est mon mari parce qu'il y a cette peur et c'est là que j'ai réalisé que my God, l'homophobie existe toujours, mais dans un autre contexte, dans un contexte quand on vieillit, qu'est-ce qui va se passer avec nous, les vieux gays? On retourne dans un milieu qui est complètement straight et c'est pas évident. Peut-être c'était mal fondé, mais moi j'ai préféré dire oui, c'est mon père et non. Mais comme je vous ai dit, le staff, je veux dire, les infirmières, les médecins, tout le monde savait qu'on était gay, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est avec les autres patients qui sont plus vieux, qui sont d'une autre génération.
En tout cas, j'ai écouté la pièce « At the beginning of time » et c'est très touchant quand vous décrivez que chaque fois qu'il ne reconnaît pas des gens ou qu'il ne vous reconnaît pas, c'est comme un petit morceau qu'on vous enlève dans le cœur. C'est vraiment une pièce magnifique. On a très hâte de la voir sur scène. Merci beaucoup, Steve Gallucho. Ça a été très intéressant comme conversation. Steve Gallucho, donc on connaît bien sûr comme auteur de « Mambo Italiano », très bientôt sur scène « At the beginning of time ». Puis entre-temps, vous pouvez aller lire sur Facebook ce qu'il pense de l'Office québécois de la langue française. Est-ce qu'on est face à un deuxième Pastagate? C'est comme ça que se termine l'émission aujourd'hui. Merci à Sébastien Laferrière à la mise en onde et merci à Maud Boutet et Hugo Veilleux à la recherche. Hugo est de retour avec nous. On se retrouve demain. Au revoir. Cube Radio.